On va lire, je vais vous lire dans l'épître à Timothée, quelque chose qui est à la fois une prière sous forme d'action de grâce et en même temps un témoignage. C'est celui de l'apôtre Paul au chapitre 1er de l'épître à Timothée, au verset 12. On va lire du verset 12 jusqu'au verset 17. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus, notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le service. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté, mais il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Christ Jésus. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis moi le premier. Mais il m'a été fait miséricorde afin qu'en moi le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. C'est un témoignage en forme d'action de grâce que nous transmet ici Paul, l'apôtre. Et ce témoignage, cette prière a été écrite avec l'épître à Timothée 2 ans avant sa mort. Vous verrez que ça, dans ce que je vais partager avec vous, son importance. C'est le témoignage d'un homme, je dirais, accompli, abouti dans son identité. C'est un parcours de vie là qu'il nous rapporte et accompli dans sa destinée, son service également. Il nous laisse le témoignage d'une profonde expérience personnelle et d'une conscience aiguë dans la façon dont Dieu a agi dans sa vie. Le passage se termine en apothéose, par ce qu'on appelle une doxologie. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. C'est un témoignage court, hein ? Vous auriez pris plus de temps, hein, pour donner votre témoignage, non ? Certainement, moi également. C'est un témoignage synthétique. Mais vous savez, la parole de Dieu sait tellement nous dire de choses essentielles, primordiales en si peu de mots. Vous l'avez remarqué déjà? Mais ce témoignage nous dit à la fois l'essentiel et tout ce que nous avons besoin de savoir sur l'action de Dieu dans la vie d'un être humain comme Paul et son action salvatrice envers lui. Mais ce qui est vrai pour Paul, ce qu'il exprime dans ce témoignage, dans cette action de grâce, est aussi vrai pour nous. D'ailleurs, il dit au verset 16, remarquez-le bien, je suis là pour vous faire remarquer un certain nombre de choses dans ses paroles, « Mais il m'a été fait miséricorde, afin qu'en moi le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience, écoutez bien la suite, pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. » C'est-à-dire chacun d'entre nous, en fait. Hein, ok ? Parce que la façon dont Dieu a agi avec Paul est la même que Dieu utilise envers chacun d'entre nous, chacune de nos personnes, même s'il n'utilise pas les mêmes moyens. On peut exprimer certaines chose essentielle qu'il exprime dans cette prière, et on va voir quoi, bien sûr, pour exprimer la façon dont Dieu procède, dont il agit dans la vie de quelqu'un pour le mener là où il veut le mener pour accomplir son destin, sa destinée et pour atteindre également le sens, pleinement le sens de sa vie et de son service pour Dieu. Nous sommes chacun uniques d'ailleurs. C'est pour ça que Dieu agit d'une manière unique avec chacun d'entre nous. Ce n'est pas la peine de se comparer. Vous allez me dire, oui, mais Paul, lui, il a eu une vision de Christ en personne, en tant qu'être humain. Quand même, ça fait la différence. Pour lui, c'était nécessaire. Hein. C'est ce qu'il lui fallait. Hein. Il a fallu que Dieu le prenne, excusez-moi l'expression, bille en tête. Hein. Ça va ? Vous comprenez l'expression ? Oui, il l'a confronté, si vous voulez. D'accord ? Il l'a vraiment confronté. Mais il le lui fallait, hein, d'accord ? Je connais le témoignage, ça me fait penser à quelqu'un peut-être dont vous avez entendu parler dans les nouvelles missionnaires en Israël, que j'ai eu l'occasion de connaître personnellement, là-bas et aussi en France, puisqu'on l'avait reçu à Toulouse Minim dans le temps. Il s'appelle Maron Raheb, et il a rencontré le Seigneur aussi, lui, dans la vieille ville de Jérusalem. C'était un Israélien, un arabe israélien, et il avait la nationalité israélienne, et il a rencontré le Seigneur alors qu'il était, sa vie sombrée, tout jeune dans la drogue, et sa vie était en train vraiment de partir en lambeaux. Eh bien, il a eu une vision de Christ qui lui a parlé, et à partir de là, sa vie a changé totalement, a été bouleversée, et il sert aujourd'hui dans ces territoires d'une manière remarquable. Et il lui est arrivé il y a quelques années de prêcher l'évangile dans la ville de Jéricho avec plus d'une 100 ou 150 femmes réunies, avec leur mari qui était au fond de la salle derrière, mais il avait la liberté, avec une femme à ses côtés, de parler de Jésus, de parler de l'évangile. Et il continue à servir là-bas, il est toujours actif. Alors, Dieu donc utilise des moyens propres à chacun pour nous permettre de le rencontrer. Moi, je n'ai pas fait la même expérience de Paul. Et par la grâce de Dieu, je peux dire comme lui pourtant, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Et je ne suis pas mécontent d'être ce que je suis, parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Amen. Oui, bien. Ce texte nous montre également le rôle central que joue le Christ Jésus dans la mise en œuvre du salut divin. Alors je vous propose, parce qu'on n'a pas encore commencé à le faire, et l'heure tourne, d'examiner avec moi ce témoignage donné par Paul. C'est un très beau texte que celui qui nous a laissé. Vous avez jusqu'à quelle heure ? Midi ? Non ? Ou plus tard, non, on va s'arrêter avant, allez. Je veux rassurer certains. Qu'est-ce qu'il dit d'abord ? On reprend sa prière, son action de grâce, vous voulez bien ? Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus, notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le ministère. Dans une autre version, en langue anglaise, il est dit, il m'a considéré, ou on peut dire aussi, il m'a jugé, dans le sens du mot estimé, hein, le même sens que le mot estimé, jugé, pas condamné, il m'a jaugé, si vous voulez, il m'a vu aussi. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu envers l'apôtre Paul, dont il a pleinement conscience? Dieu a perçu Paul comme étant autre chose, comme étant une autre personne que ce qu'il était selon toutes les apparences de ce temps-là, dans ce qu'il était en tant que Saul de Tarse. Il l'a estimé. Dieu a fait une sorte d'estimation. Il l'a évalué, si vous voulez. Il l'a jaugé, comme peut le faire un œil exercé pour évaluer un objet de qualité. Ou l'inverse, peut-être, un objet ordinaire que quelqu'un verrait comme ordinaire, mais que Dieu va voir comme quelque chose de particulier et d'unique. Un objet précieux, peut-être, que la plupart des gens ne savent pas estimer à sa juste valeur. Il l'a estimé fidèle en établissant dans le ministère ou dans le service ce qui était totalement opposé à tout ce qu'il était dans les faits et dont Paul nous parle lui-même dans ce passage au verset 13 suivant avec une grande lucidité lorsque il nous dit « J'étais un homme un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté. On va voir ce que ça veut dire, hein, littéralement. Et c'est vrai que Dieu a une façon de poser le regard sur quelqu'un d'une manière unique. Il l'a fait avec Zachée. C'est vrai. Et il a vu quelque chose que tous les autres ne voyaient pas. Mais il l'a fait avec nous aussi. Et si on écoutait des témoignages là, on se rendrait compte de la façon dont Dieu a posé le regard sur chacun d'entre nous. J'espère que vous en avez conscience et que vous vivez maintenant selon ce regard que Dieu a posé sur vous et ce qu'il a vu en vous regardant. Ok ? Vous me suivez ? Alors je continue. En se révélant à lui sur la route de Damas, Jésus, je parle de Paul, l'a introduit dans sa destinée, dans sa vraie identité. Il lui a ouvert les yeux sur l'identité qui était la sienne. Mais il lui a communiqué une force qu'il n'avait pas lui-même pour accomplir cette destinée-là. Il lui a donné non seulement la force, mais aussi les dons, les talents qui vont avec. Bien. D'ailleurs, il dit dans ce même passage, et ce que je vous dis est inclus dans ce passage, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié ou qui m'a rendu fort. » Dieu a posé un nouveau fondement dans sa vie sur laquelle il allait construire une autre destinée que celle que Paul avait envisagée dans sa première vie. Lui, le champion dans ce peuple d'Israël, le champion d'un parti même religieux dont il était devenu le chef de file pour amener le développement de leurs pensées, de leurs idées, de leur façon de voir le monde, la foi, la société. Et il y a quelque chose, bien sûr, qui est arrivé, qui a bouleversé tout ce que Paul avait envisagé. Mais vous savez, ce que Dieu fait avec Paul, il le fait avec chacun d'entre nous. En se révélant à nous, Dieu fait la même chose. Nous sommes invités à répondre avec foi à la vocation et à la destinée que Dieu nous a adressée. Vous allez peut-être émettre dans votre esprit une objection et me dire « Oui, mais on a affaire à des gens exceptionnels, hors du commun. » Non, puisque je vous ai lu ce qu'il vient de nous dire, enfin, tout à l'heure, en lisant cette prière, pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui. C'est-à-dire le processus de la conversion est le même pour chacun d'entre nous. Si nous nous repentons, c'est parce que Dieu s'est révélé à nous. C'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. Ce n'est pas que je vous crie du matin au soir, repentez-vous. Je peux le faire, parce que vous en avez peut-être besoin. Mais s'il n'y a pas une révélation de Dieu, il n'y a pas de repentance. C'est la repentance, la lumière qui s'ouvre sur qui est Dieu, sur sa personne, sur son amour ou sur sa sainteté, qui amène une prise de conscience de ce que nous sommes ou de ce que nous ne sommes pas également et que nous pensions être. D'accord ? C'est comme ça que Pierre s'est converti, s'est jeté aux pieds de Jésus. « Éloigne-toi de moi, il vient de voir un miracle extraordinaire avec la pêche miraculeuse. Éloigne-toi de moi. » Et il est convaincu de péché. Et ça, c'est la bonté de Dieu qui pousse à la repentance. Ce phénomène extraordinaire. C'est un mot formidable, repentance. Ça ne doit pas vous faire peur. Non ? Si ? Vous pouvez manifester. Vous avez le droit d'avoir des gestes, des réactions. Ok ? Donc, la repentance, c'est un mot magnifique. Bien sûr, ce n'est pas le sujet ce matin, donc on va continuer. On en parlera une autre fois. Qui était Paul ? Pour qu'on puisse aborder les choses de cette manière, pour qu'il puisse surtout nous parler de cette manière. Qui était Paul ? Avant les événements qui ont bouleversé le cours de son existence et que nous rapporte le livre des Actes des Apôtres, également, donc, dans sa façon d'être et d'agir, comment Paul part-il de lui-même dans ces versets ? Quel éclairage a-t-il reçu sur ce qu'il était vraiment, sur ce qu'il animait ? Et la force de la révélation qu'il a reçue de la part de Christ a pour corollaire la clarté de la révélation qu'il a reçue de lui-même. D'accord ? C'est comme ça que quelqu'un peut se convertir. lorsque Dieu se révèle d'une manière ou d'une autre, ça peut être par une guérison aussi, hein, mais pas obligatoirement. Il y a des gens qui ont été guéris, qui ne se sont pas tournés vers Dieu pour autant, hein, parce que ça n'a pas atteint leur esprit quelque part. Donc la clarté de la révélation qu'il a reçue de lui-même, de son fonctionnement, de ce qu'il animait, de la fausse identité qui était la sienne. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur et un homme emporté. Il emploie trois mots. Le blasphémateur, c'est celui qui est tourné contre Dieu. D'accord ? Le persécuteur, c'est celui qui est tourné contre les personnes. Ok ? Puisqu'il persécutait l'Église. Et l'homme emporté, et on va détailler un petit peu le mot, c'est quelqu'un qui a une colère en lui-même, il est emporté parce qu'il est quelque part, il se fait mal à lui-même, ok ? Et c'est ce qui est caractérisé l'apôtre Paul. Je me suis attaqué à Dieu, je lui ai fait du mal, j'étais tourné contre Dieu, persécuteur, j'ai fait du mal aux autres, j'ai utilisé tous les moyens à ma disposition pour faire disparaître l'Église. Donc il est tourné contre les personnes qu'il avait identifiées comme ennemies. Je me suis fait du mal à moi-même. Et le mot grec que Paul emploie est un mot terrible, qui parle d'arrogance, de son arrogance, de sadisme, de violence brutale et insolente. Il blesse, il agresse, il éprouve du plaisir, en sorte qu'il puisse amener la honte sur les gens qu'il agresse, sur les personnes visées. Il s'attaque, on pourrait dire, jusqu'à l'être des gens. Il veut les couvrir de honte et d'opprobre, les disqualifier à jamais. Voilà comment fonctionnait l'apôtre Paul. Et Dieu lui a révélé, justement, la façon dont il fonctionnait, ce qu'il était. Il était animé d'une rage qui pouvait aller jusqu'au meurtre. Vous vous souvenez du martyr d'Étienne ? Et il nous est dit que les témoins avaient déposé les vêtements d'Étienne aux pieds d'un jeune homme appelé Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. C'est intéressant de voir Paul quand même parler de lui-même de cette manière, même si le tableau n'est pas très flatteur, hein. Alors il nous dit, rajoute ceci, « J'agissais dans son témoignage que nous venons de lire, par ignorance et dans l'incrédulité. » Ignorance pourquoi ? Parce qu'il était aveuglé, il ne savait pas ce que Dieu avait en réserve pour sa vie. Il ne savait pas qui était Dieu, il ne savait pas qui il était lui-même, mais Dieu le savait et le lui a révélé. Incrédulité parce qu'il ne croyait pas que les choses pouvaient être radicalement différentes de ce qu'il connaissait alors. Il était, vous savez, c'était quelqu'un de très autosuffisant, Paul. Une forte personnalité, un fort tempérament. Si Saul de Tarse s'est érigé en ennemi de Christ et de l'Église naissante, Dieu n'a pourtant pas agi en ennemi vis-à-vis de lui. Vous avez remarqué cela ? Dieu ne s'abaisse pas à cela. Dieu n'est jamais notre ennemi ni l'ennemi de personne. Dieu reste Dieu. Ça veut dire qu'il peut, combattre hein, à certains moments, ça ne veut pas dire, bien sûr. Mais lui en tant que Dieu, n'est l'ennemi de personne. Mais il reste lui-même, il a besoin simplement d'être lui-même, vous savez. C'est pour ça qu'on loue Dieu, on invite Dieu à être présent au milieu de toutes nos circonstances, quelles qu'elles soient, à être présents au milieu de nous, de ce que nous sommes également, nous, individuellement et collectivement. Et ainsi, Dieu n'a qu'à apparaître pour que les choses soient réglées. Hein. Oui. Dieu, dans les Écritures, il n'y a qu'un seul ennemi, le Satan, l'adversaire, appelé aussi l'ennemi de nos âmes. La seule chose que Dieu a à faire avec Saul de Tarse, c'est de se révéler à lui, comme il l'a fait sur la route de Damas. Qui es-tu, Seigneur ? Ben, il n'a pas dû le dire comme moi. Hein. Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Et cette révélation, c'est une confrontation en même temps, par rapport à ce qu'il était, ce qu'il voulait être, et par rapport à ce qu'il était en train de faire en persécutant l'Église. C'est une confrontation, je vous disais au début, Dieu l'a pris bien en tête. C'est l'amour et la bienveillance de Dieu qui sont venus rencontrer Saul de Tarse. C'est la bonté de Dieu, c'est sa bienveillance. C'est cela qui nous pousse à la repentance. Je vous le disais tout à l'heure et je vous ai cité en exemple aussi, par exemple, Pierre avec la pêche miraculeuse. La repentance n'est pas une humiliation. Dieu ne cherche pas à nous humilier. C'est nous qui avons besoin de nous humilier alors que nous prenons conscience de l'absolu, des choses absolues qu'il y a en Dieu, de sainteté, d'amour, etc. Nous sommes confondus. Moi, je me suis converti jeune à l'âge de 13 ans. Quelqu'un ouvre la bouche. Oui, c'est vrai. Et il y a eu une révélation de l'amour de Dieu particulière, très forte, intense. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais une telle révélation personnelle que j'étais dans un rassemblement de jeunes, c'était dans un haut lieu de rassemblement des jeunes de nos églises à l'époque, il n'y en avait qu'un seul, c'était à Embrun dans les Hautes-Alpes. Et il y a eu une telle révélation de Dieu et de l'amour de Dieu avec une vision intérieure. Alors, bon, quand je dis vision intérieure, quand on reçoit, on fait ce genre d'expérience, on ne sait plus si c'est intérieur, extérieur ou autre, mais c'est réel, c'est tellement intense, tellement fort, une vision de la croix d'une croix qui se situait un petit peu à une certaine distance sur une montagne. Et là, l'amour de Dieu me traversait physiquement parlant avec une telle intensité que physiquement, j'ai dit à un moment, je me suis dit, mais je me disais intérieurement, je n'ai pas osé lui dire carrément, je disais à Dieu, je me disais, il faut que ça cesse parce que physiquement, je ne pourrais plus le supporter. J'aurais pu en mourir à ce moment-là. Bon, ça aurait été beau dans le fond, hein. Mourir de l'amour de Dieu et partir avec lui. Non, mais ce n'était pas le moment quand même. Ce n'est pas ce que Dieu voulait. Amen. Et oui, la révélation de l'amour de Dieu. Alors, il y a une action de grâce, donc, et de la part de Paul, et de la grâce divine et de ses conséquences. Ses conséquences pour Paul et pour nous-mêmes, au cœur de cette action de grâce, il y a la présence, comme je viens de le dire, de la grâce divine. D'ailleurs, il le dit et au verset 14 de ce passage, « Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Christ. » Il parle de surabondance. Paul la qualifie de surabondant. C'est-à-dire que rien n'est hors de portée de la grâce divine. Hello ? Lorsqu'il décide de la mettre en œuvre, aucune situation, aucun mal, aucun péché, aucune personnalité, aucun sentiment, aucune forme de pensée. Oui ? C'est ce qui s'est passé avec Paul. Hein ? Vous êtes avec moi ? Vous êtes attentif, c'est pour ça. C'est pour cela que Paul nous dit qu'il était blasphémateur, persécuté et homme enragé. La grâce, c'est un partenaire, c'est comme un partenaire qu'il a accompagné tout au long de son parcours, pas seulement quand il s'est converti, parce qu'on parle de la grâce par rapport à la conversion, mais la grâce, c'est un partenaire qui est avec nous, que nous avons tout au long de notre marche avec Dieu, jusqu'au bout, d'accord ? Et qui lui a communiqué cette grâce, les dons, les qualifications, les capacités, et lui a permis d'utiliser celle qu'il avait d'une manière heureuse, d'une manière bénie, d'une manière ointe du Saint-Esprit. Gloire à Dieu ! Cette grâce l'a accompagné aussi au sein des épreuves, des combats les plus douloureux et difficiles. Et ils ont été nombreux pour lui. Il les décrit dans la deuxième épître aux Corinthiens en particulier, parce qu'il y avait des croyants là-bas à Corinthe qui croyaient qu'ils étaient déjà arrivés. Ils vivaient sur une espèce de, comment dire, d'une réalisation du royaume de Dieu sur la terre un petit peu surfaite. D'accord ? Et d'ailleurs, Paul leur dit, vous avez commencé à régner, vous. Moi, pas. Alors, je vais vous dire un petit peu, derrière tous les fruits de mon ministère, ce qu'il y a de souffrance, d'opposition, de combat, de choses terribles que j'ai vécues, physiquement et autres. D'accord ? Mais si on veut être honnête, c'est vrai pour chacun d'entre nous. L'action de la grâce de Dieu ne nous facilite pas obligatoirement les choses, mais nous permet d'affronter toutes sortes d'adversités et d'en sortir grandi, transformé, de rentrer un peu plus dans notre identité vraie en Christ. Amen. Alors, écoutez bien ce qu'il dit au verset 15 suivant. On parcourt toujours ce témoignage et cette action de grâce de Paul. Il dit, « Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le plus fort ?» Ah, vous avez une voix quand même, à Sainte-Agne. J'en ai entendu quelques-unes pendant la prière, mais bon, elles sont timides. Hein. Peu de temps après sa conversion, voici une des premières déclarations de Paul dans Galates 2.6. Un petit peu du même genre. Quant à moi, non, pas du même genre justement, on va voir un peu plus loin. La première déclaration que Paul fait un petit peu par rapport lui-même et par rapport à son rapport aux autres. Quant à ceux qui, Galates 2.6, paraissaient les plus considérés, il parlait des premiers apôtres dans l'Église, qui conduisaient l'Église, ce qu'ils avaient été autrefois m'importe peu. Oh, il était un peu... ce jeune converti, là, pour qui il se prend, hein ? D'accord ? Et donc, ça a été dit, écrit en l'an 49. En paraphrasant Paul, je dirais, je ne suis pas là pour m'en laisser compter, hein, il semble vouloir dire. Je n'ai besoin de personne. Et comme on disait, donc, Paul est quelqu'un de très autosuffisant. Mais écoutez ce qu'il dit en l'an 55, 6 années plus tard. Il écrit, je suis le moindre des apôtres. Ah, tiens, tu parles plus de la même manière, 1 Corinthiens 15:9. 5 années plus tard, nous sommes en l'an 60, il déclare aux Éphésiens, à moi, le moindre de tous les saints. Ah, tiens, quand même, pourquoi il parle comme ça, Paul ? Il évolue de cette manière. Et revenons à la déclaration de l'épître à Timothée. Je suis le premier des pécheurs. Ça, c'est 2 ans avant sa mort. L'homme accompli qu'il est devenu et le serviteur qu'il est devenu est revêtu d'humilité. Il avait besoin, hein ? Ah ouais. Vous vous souvenez ce qu'il dit dans l'épître aux Corinthiens, la deuxième, hein ? Il y a un ange de Satan qui est venu pour me souffleter et Dieu lui a dit... Tu vas rester embêté par cet ange de Satan. Tu vas rester comme ça. Dieu s'est servi d'un moyen, on ne sait pas si c'était physique ou autre, pour le contrôler et pour l'amener là où il avait l'intention de l'amener. Quelle application on peut en faire pour nous-mêmes ? Vous savez, la grâce de Dieu nous donne de la valeur, puisqu'il parle de la grâce. Hein. Elle est au cœur de son expérience et de l'enseignement dans ses épîtres de l'apôtre Paul. La grâce nous donne de la valeur pour ce que nous sommes, et non pas à cause de ce que nous faisons ou nous ne faisons pas. Vous me suivez ? Il s'agit de l'être, pas du faire. Non, ça va, il y en a qui se froncent les sourcils. Elle mise sur notre être. Dieu s'intéresse de près à la personne que nous sommes. Il s'intéresse de près à toi, jeune fille. Tu es toute jeune, quel âge as-tu ? Oui ? 19 ans. Et oui, il s'intéresse à toi de près, d'une manière unique. Un psaume dans lequel Paul, David l'exprime. C'est le psaume ? Vous alliez le dire, allez. 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. J'ai intitulé, j'ai une prédication sur ce psaume qui est intitulée « Toi et moi ». Toi et moi. Toi et moi, c'est unique. D'accord ? Bien. Dieu nous considère et nous traite comme des fils et des filles. Vous lirez Hébreux 12, versets 5 à 7. Où l'épître de Tite également nous dit que Dieu est un père qui nous est comme un éducateur. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. Mais littéralement, c'est nous éduque. Dieu commence par nous qualifier en nous disant que nous sommes totalement acceptés aux yeux de Dieu par notre foi en Christ. C'est un don et un cadeau. Et dans la grâce, je suis placé d'emblée en position de gagnant dans le régime de la grâce. Amen. Donc ce n'est pas une tentative de dévalorisation, c'est une tentative, quand Dieu le fait, de nous révéler qui nous sommes. Amen. La grâce de Dieu, elle est là pour nous dire qui nous sommes selon le regard de Dieu et selon le plan et le dessein de Dieu. Malheureusement, il y a souvent une part, une part d'incrédulité, peut-être un manque de révélation ou d'appropriation de cette révélation que Dieu nous a accordée au moment de notre conversion. Nous n'avons pas cru, peut-être, jusqu'au bout que Dieu, ce que Dieu nous a accordé au moment de notre conversion. Nous n'avons pas cru jusqu'au bout, ce que Dieu a accompli au temps de notre rencontre avec lui. C'est possible, de notre conversion. Et peut-être nous l'avons perdu de vue, si bien que je dis bien qu'il y a des gens qui font avorter le plan de Dieu dans leur vie. Et qui ne vont pas jusqu'au bout de ce que Dieu a prévu. Oui, enfin, je ne l'avais pas dit encore. Celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Dieu nous regarde au travers de Christ, comme des hommes et des femmes accomplis. Je dirais dans la meilleure version de nous-mêmes. Amen. Et dites à votre voisin, tu sais pas que Dieu me voit dans la meilleure version de moi-même ? Vous avez le droit, hein, allez-y. Ah, c'est bien. Ah, je vous vois vous détendre et sourire. C'est bien, j'aurais dû le faire avant ça. La grâce permet la croissance, le progrès à toute époque de notre vie et de notre parcours. La grâce permet que tu ne restes pas enfermé dans un échec que tu as connu, une erreur que tu as commise, le mal que tu as subi, et celui que tu as commis. Parce qu'en ce qui concerne le péché, on parle souvent du mal que nous commettons, mais le mal, nous le subissons également. Et Dieu s'intéresse aux deux. Ok ? Bon, allez, je ne vais pas développer ça, j'arrive à la fin. Il me reste 2-3 minutes, c'est tout. Oui, il y a des conséquences, c'est sûr, dans les erreurs que nous avons commises, les échecs que nous avons eus. Il y a peut-être des conséquences auxquelles nous n'échapperons pas et Dieu ne nous fera pas obligatoirement échapper. Lorsque David a péché gravement contre Dieu et contre lui-même et contre son prochain, Dieu l'a confronté au travers du prophète Nathan, d'une manière avec tellement de pédagogie et de force que, comme c'était un homme dont le cœur était quand même vis-à-vis de Dieu honnête et droit, il a été terrassé sur le moment, bien sûr, par une telle révélation de ce qu'il était, de la façon dont il fonctionnait. Il a dû perdre l'enfant quand même. Oui, Dieu ne lui a pas évité certaines conséquences de ses actes. Alors je vous invite, pour terminer cette belle évocation du témoignage de Paul, cette prière. J'espère que vous la relirez avec d'autres lunettes, d'autres yeux, et que vous la comprendrez encore mieux, vous l'approfondirez encore plus que ce que j'ai pu faire. Je vous invite à saisir à bras le corps l'appel personnel que Dieu vous a adressé, la destination nouvelle dans laquelle il vous a fait entrer. Celui qui a commencé en nous, nous avons dit, cette bonne œuvre la rendra parfaite. Les choses peuvent encore évoluer, changer dans notre vie. La foi peut renouveler notre espérance pour notre famille, pour nos enfants, pour notre situation maternelle, matérielle, un nouvel amour pour une nouvelle estime et vision de nous-mêmes qui correspond à l'image de Dieu. Amen. Que Dieu a déposé en nous. Que Dieu soit béni. Eh bien, je voudrais vous encourager sur le chemin de la vie que vous traversez, le Saint-Esprit et la parole de Dieu avec moi. Alors nous allons adresser à Dieu cette prière. Seigneur, donne-moi de goûter à nouveau à la profondeur de ton amour et de ta grâce surabondante. Amen.